Yes, on peut applaudir tout ce qui se fait au nom de notre Église. Merci Seigneur. Vraiment content ce matin de commencer cette série sur le livre des Proverbes, Mieux vivre, le secret des Proverbes. Et si vous avez déjà lu le livre des Proverbes, c'est un livre magnifique. D'ailleurs, je vous donne un devoir. Lisez le livre des Proverbes dans les prochaines semaines. C'est riche, c'est formidable. Il y a plein de petits conseils qui s'enchaînent les uns après les autres et qui peuvent vraiment fortifier et édifier notre vie. Et si aujourd'hui, je vous nomme quelques trucs comme ceci, par exemple, l'inflation. Hey, j'ai pas l'emmène, mais l'augmentation des taux d'intérêt. Le prix de l'essence. Partez pas. Augmentation du prix des maisons. Augmentation du coût des locations des appartements, la chute de la crypto-monnaie, l'incertitude mondiale, la baisse de la capacité d'achat de la classe moyenne. Et tout ça pendant que nos salaires augmentent vraiment pas beaucoup. Je parle de quoi? Je parle d'argent ce matin. Je parle de cash. Je pense que c'est vraiment pertinent que l'Église s'arrête et qu'on parle de ce thème qui fait partie de notre vie quotidienne. Combien d'entre vous, là, ça fait partie de votre vie quand même, que tu veuilles ou pas, là, le cash, l'argent, ça fait partie de notre vie. Et alors que j'étudiais les Proverbes, on voit que le livre des Proverbes est rempli de conseils sur la gestion des finances. Mais vraiment. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé à travers le livre des Proverbes et j'ai relevé tous les textes qui nous parlaient de la gestion financière d'une façon directe ou indirecte. Et j'ai essayé de regrouper ça en différentes sections. Et je vous donne ce matin, je vous pitch ce matin un genre de condensé de conseils qui sort du livre des Proverbes pour mieux gérer nos finances personnelles. Ça vous tente-tu? Bon, pour les quatre personnes, ça leur tente, vous allez voir, ça va être bon, là. Oh, ça va être bon. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est les Proverbes et l'argent. Je sais, c'est un titre profond, là. Et on va regarder ensemble des principes bibliques tirés des Proverbes pour une saine gestion de nos finances. Et la première chose qui m'a surpris, la première chose qui m'a allumé en lisant le livre des Proverbes, c'est comment l'auteur arrive à remettre la place de l'argent à sa place. Il met l'argent à sa place, c'est-à-dire que l'argent dans notre société prend beaucoup d'espace. C'est l'objet de notre poursuite pour beaucoup d'entre nous. C'est même un dieu dans notre société. Et l'auteur des Proverbes va prendre l'argent et il va la remettre à sa place, c'est-à-dire qu'il va descendre son importance. C'est important, ça fait partie de la vie, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais on va lire quelques textes où on voit qu'il y a d'autres choses qui passent avant ça. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes que la richesse. Si tu ne me crois pas, ben, on va lire quelques versets ensemble. Il y a beaucoup de Bible ce matin, il y a beaucoup de versets des Proverbes. Donc, vraiment, ouvre ton cœur, laisse la parole entrer dans ton cœur. Puis, mon but, mon désir ce matin, c'est qu'on puisse tous ici apprendre des choses et qu'on puisse devenir de plus en plus libre financièrement. Qu'on soit plus écrasé. C'est un de mes buts pour vous ce matin. Que l'argent ne soit plus une cause de stress, mais que vous soyez libérés de ce stress et que Dieu vous donne une joie dans la vie. OK, je commence. Proverbe 3:13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable. Dis à la personne à ta droite, préférable. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Comme ici, vous désirez quelque chose. Ah, lève ta main, tout le monde ici, il y a quelque chose que tu désires. Mais la sagesse, l'intelligence a plus de valeur que l'argent et même que tout ce que tu pourrais désirer. La Bible vient ici, elle prend l'argent, puis oh, elle l'écrase un peu. Elle dit, il y a des choses plus importantes que l'argent. C'est ça qu'elle dit ici. 8, verset 10. « Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. » 23, 4 nous dit ceci. Proverbe 23, 4. « Ne te fatigue pas à acquérir la richesse. Ah, combien ici on se fatigue à acquérir la richesse. On se fatigue à trouver de l'argent pour payer nos affaires. On court après l'argent. Ça dit, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu la poursuivre du regard? La voilà disparue. Combien c'est l'histoire de votre vie, non, c'est vrai? Tu cours après l'argent, mais il me semble qu'elle n'arrive jamais. Elle n'est jamais là comme on voudrait l'avoir. En effet, la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. Espèce d'argent qui s'envole. Chapitre 30, verset 8. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Regardez bien ceci. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Oh, c'est beau, hein? Ça fait réfléchir, hein? C'est ça que ça fait, les proverbes, ça nous fait réfléchir. C'est pas quelque chose qu'il faut lire à la hâte ou rapidement. Il faut prendre le temps de les lire, de voir qu'est-ce qu'on dit ici. Verset 9. « Sinon, je risquerais une fois rassasié de te renier, de dire qui est l'Éternel, ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. » Ici, on parle des dangers de l'hyper-richesse puis les dangers de la pauvreté. Et on parle ici de contentement, d'être contenté de ce que nous avons, de ce qu'on a. L'important aujourd'hui, je commence ce message en disant, l'important, c'est de veiller sur notre cœur. De veiller à la place que l'argent prend dans notre vie. Et alors que je lisais les proverbes, je voyais que ouais, mon cœur a besoin d'être recalibré au diapason avec ce qu'enseigne la parole de Dieu. Mon cœur a besoin d'être tuné, d'être réarrangé un peu, d'être mis à sa place. L'auteur des proverbes met l'argent à sa place. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir deux maîtres. Car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et on vit dans une société où clairement, l'argent est un dieu, suivi par beaucoup, beaucoup de personnes. Hein, beaucoup de personnes sont accablées par le manque d'argent, beaucoup de personnes mettent des énergies et même au prix de leur santé à courir après l'argent, après les richesses. Et clairement, nous devons, comme chrétiens, aller à l'encontre de cela. Oui, on a besoin d'argent. Oui, il n'y a rien de mal à s'enrichir et à posséder des biens. Mais je te demande et je me demande ce matin comment est mon cœur par rapport à l'argent. Et ça se peut qu'aujourd'hui, le Seigneur veuille faire descendre un peu notre amour de l'argent et faire augmenter notre amour de Dieu. Tu as le droit de dire « Amen ». C'est une bonne phrase, ça. Hein? Dieu veut remettre l'argent à sa place. En parlant de se faire remettre à sa place, y a-t-il quelqu'un ici qui s'est déjà fait remettre à sa place? On connaît cette expression-là. J'étais en voyage en janvier, c'était en mars, je pense, 2020, juste avant la pandémie, un voyage d'affaires avec la compagnie de Lison. Et on avait un bon moment, on était avec des amis. Et là, il y avait un jeu de société qui est sorti sur la table. C'était le jeu Categories, OK? Combien vous connaissez ce jeu-là? Ça vous dit quelque chose? OK, plusieurs personnes. Et autour de la table, moi, je suis très compétitif, OK? Je l'ai déjà dit, je déteste perdre. J'haïs ça. Et même si on fait un jeu de société, on dirait que ma vie est en jeu. T'sais, on dirait que si je perds au jeu de société, que je meurs à la fin, puis que c'est la fin. T'sais, c'est vraiment la fin de la fin. Donc, je veux vraiment gagner. Et là, autour de la table, il y a une jeune femme et elle a un bac en traduction et un bac en enseignement. Et elle est vraiment alerte. C'est un jeu avec les mots, le français, tout ça. Et moi, je veux l'affronter, mais je me suis fait vraiment démolir. Je me suis fait remettre à ma place, mais solide. Puis là, j'essayais d'argumenter, j'essayais de trouver. Non, mais ce mot-là, il peut compter comme un point. Elle dit non, il ne peut pas compter comme un point. Oh, peux-tu vérifier l'estinage de jeux de société, franchement? Est-ce que je suis seul qui s'estine pendant qu'on fait des jeux de société? Moment de confession à l'église ce matin. Qui aussi ça vous arrive de faire ça? OK. Bon, à la fin, vous allez tous venir devant, puis on va former un nouveau groupe Nouvelle Vie, OK? Puis on va s'encourager, on va prier les uns pour les autres. Que le Seigneur nous délivre de l'estinage des jeux de société. Et j'ai été remis à ma place. Okay? Elle était meilleure que moi. Et Dieu veut faire ça dans ton cœur aujourd'hui. Dieu veut venir prendre l'argent si elle prend trop de place dans ton cœur, puis il veut le baisser dans ton cœur et lui venir en premier. C'est la première chose que nous enseigne le livre des Proverbes sur l'argent. Deuxième chose que nous enseigne le livre des Proverbes sur l'argent, et en fait, c'est le cœur de mon message ce matin, c'est que Dieu bénit la générosité. Ah, c'est bon, il y a trop de versets. J'en ai enlevé quelques-uns, mais je n'ai laissé quand même pas mal parce que la Bible est claire. Dieu bénit ceux qui sont généreux. Mais vraiment, il y a une bénédiction claire. Dieu nous appelle à se soucier des pauvres ou des gens qui vivent des moments difficiles, des pauvres de la planète, mais aussi les gens autour de nous qui vivent des saisons de difficultés. Dieu nous appelle à nous soucier d'eux. Et ça, c'est clair dans les Proverbes. 14:21. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais celui qui a pitié des plus humbles connaît le bonheur. 14:31. Exploiter le faible, c'est insulter son créateur. Oh. Mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. C'est d'honorer le créateur. C'est fort, hein? Je prends une petite pause parce que c'est beau, la Bible. C'est vraiment fort. 19:17. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra son bienfait. Quand tu donnes, quand tu fais une faveur à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est Dieu lui-même qui va prendre soin de toi par la suite. C'est ce qu'a dit la Bible. On continue. 21:13. Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi et il n'aura pas de réponse. On peut dire « ouch ». Des fois, on dit « amen », des fois, on dit « ouch ». Hein? Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui-même, criera aussi, il n'aura pas de réponse. 28:27. Celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère. Combien je prie que ce proverbe pénètre nos cœurs ce matin, il change nos vies, il change même nos habitudes. Mais ceux qui fuient son regard sont chargés de malédiction. Clairement, Dieu m'appelle et nous appelle à nous soucier les uns des autres, et particulièrement ceux qui vivent dans la pauvreté, ceux qui traversent un épisode de pauvreté, Dieu nous appelle à nous soucier d'eux. Et je pourrais prêcher 10 messages tellement la Bible est abondante sur ce thème-là. Dans les Actes des Apôtres, dans les prophètes, partout, on nous parle de la générosité, de l'entraide, de se soucier des autres. Et on vit aujourd'hui, encore une fois, si un des dieux de notre société, c'est l'argent, une des habitudes de notre société aussi, c'est l'individualisme. C'est un long mot qui veut dire « je m'occupe de mes affaires puis je me fous des autres ». Ils s'arrangeront bien. Qui se pogne une job, qui aille travailler. Qui gèrent, ils ont juste à pas s'acheter des affaires, des cigarettes, puis des ci, puis des ça. Hein? On a entendu toutes sortes de phrases. Mais dans le fond, on cache quoi? On couvre quoi? On couvre notre individualisme. On s'excuse de pas être généreux. Dieu nous appelle à être généreux. On vient de lire. On vient de lire combien de proverbes là-dessus. Dieu nous appelle à être généreux. C'est extrêmement important. Ça fait partie du cœur de Dieu d'être généreux. 10, verset 16, dans les Proverbes toujours, le salaire du juste sert à la vie. Ah, que c'est bon. Le revenu du méchant sert au péché. Est-ce que notre salaire est utilisé pour la vie? Certains vont me dire, mon salaire, pasteur David, il est utilisé pour payer mes factures. Ben, moi aussi. Je vous comprends. Mais est-ce qu'il y a une partie de mon salaire que j'utilise pour bénir, prendre soin, aimer, encourager en action, en donnant? Si la réponse est non, il n'y a pas de jugement ce matin, tu es à la bonne place pour commencer cette bonne habitude dans ta vie. Et il n'y a pas de pression sur toi, c'est ta vie personnelle. Je ne vais pas te dire, tu dois faire ça, sinon je te tords un bras. Non, je ne ferai pas ça. C'est entre toi et Dieu. Mais ce que je te dis ce matin, c'est qu'il y a une bénédiction de Dieu qui est réservée pour ceux qui sont généreux. Ceux qui l'ont expérimenté, là, vous comprenez ce que je dis. parce que vous avez vécu la provision de Dieu dans votre vie alors que vous avez vous-même donné autour de vous. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Regardez bien le prochain texte. Oh, quel bon texte. 11:24. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Bienvenue dans les maths divines. Oubliez toutes les maths que vous avez apprises dans votre vie. Est-ce que ça vous sert d'ailleurs? Est-ce que Pythagore te sert beaucoup? Oui, oh, il y en a certains que ça leur sert peut-être. Mais c'est important d'apprendre les maths divines. Les maths divines, c'est que quand Jésus habite dans ta vie, que tu es chrétien et que tu es généreux, Dieu te bénit davantage. C'est ça les maths. Mais si tu épargnes à l'excès, Dieu ne parle pas contre l'épargne. C'est sage et avisé d'épargner. C'est sage et avisé de mettre de l'argent de côté pour faire face aux mauvais jours. C'est de la sagesse. Mais épargner à l'excès, quand tu fais ça, tu t'appauvris. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la main de Dieu de bénédiction et de faveur sur ta vie. Êtes-vous là ce matin? Dieu veut te bénir. Dieu veut prendre soin de toi. Mais Dieu nous appelle à la générosité. Verset 25, ça dit « L'âme généreuse sera comblée ». Est-ce que ton âme est généreuse ce matin? Si notre âme est généreuse, on va être comblé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Là, on ne parle pas ici d'une guerre de fusil à eau, comme hier, vous avez fait peut-être avec vos enfants alors qu'il faisait 35 degrés Celsius, qu'un arrose, l'autre arrose. Non. Quand tu bénis quelqu'un, Dieu te bénit. Quand toi, tu déverses sur quelqu'un, Dieu déverse sur toi-même et sur ta vie. J'espère que tu le saisis ce matin. Peut-être que c'est nouveau pour toi, cette pensée-là, mais c'est parfait si c'est nouveau, parce que je prie que tu puisses l'expérimenter dans ta vie et voir comment Dieu va te bénir. Verset 26, je continue. Le peuple maudit celui qui refuse le blé, mais la bénédiction repose sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en devient la victime. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, tandis que les justes verdiront comme le feuillage. Quel passage biblique puissant. Les maths de Dieu, c'est que 2 moins 1 égale 3. Attends un peu. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'école. 2 moins 1 égale 3, oui. Si tu prends ce que tu as et que tu le partages, donc tu te départis de quelque chose, Dieu te bénit davantage. Donc ce matin, il faut qu'on se rappelle de ça, 2 moins 1 égale 3. Et quand tu vis des moments dans ta vie difficiles financièrement, rappelle-toi de ça aussi. 2 moins 1 égale 3. Dieu veut prendre soin de toi. Chapitre 21, verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. 21-26, toute la journée, il éprouve des désirs, mais le juste, en revanche, donne sans retenue. En voulez-vous des versets? Ouais, la Bible, oui, la Bible en parle, hein? On en parle pas mal. 22, verset 9, l'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne son pain au plus faible. Dieu veut bénir et Dieu voit la générosité de ses enfants. Dieu, il le voit. À un moment donné dans ma vie, il m'est arrivé d'avoir un moment de tension financière. Combien ici vous avez déjà vécu des tensions financières? Levez la main. On a tous vécu ça, ou la plupart d'entre nous, on a déjà vécu des tensions financières. Et quand on vit des tensions ou des pressions financières, la tendance humaine, c'est quoi? C'est de moins dépenser, ce qui est correct, okay? Ce qui est logique, ce qui est une bonne chose. Va pas t'acheter un bateau si tu n'as pas d'argent, d'accord? Ou n'importe quoi d'autre, un 4 roues, peu importe. Si t'as pas d'argent, t'as pas d'argent, OK? Et là, moi, on était serrés. Et là, Dieu m'a mis à cœur quelque chose. Tu sais, là, des fois, Dieu nous met à cœur des affaires, là. Tu sais qu'il te parle dans ton cœur. Il m'avait mis à cœur de faire un don à une personne. Puis un don substantiel que j'avais pas, OK? Fait que là, je combattais dans mon cœur. Comment vous faites ça quand Dieu te parle dans ton cœur ou t'invite à une action généreuse? Je commençais à avoir ce combat intérieur. Je commençais à négocier avec Dieu. Dieu me dit tel montant. Je dis, ah, Seigneur, tel montant, c'est vraiment généreux. C'est la moitié, mais c'est full généreux quand même, là. Ça serait bien correct, Seigneur. Je négociais avec Dieu. Hein? Ou j'essayais d'étouffer sa voix. Est-ce vraiment Dieu qui m'a parlé? Qui sait? Qui sait? Qui suis-je pour dire que c'est la voix de Dieu dans mon cœur qui parle de bénir quelqu'un? Voyons, c'est sûrement moi. C'est sûrement moi qui est naturellement généreux de même. Ah non, ça tape là, ça marche pas ça. Donc là, ce que j'ai fait, l'erreur fatale, j'en ai parlé avec ma femme. Je dis l'erreur fatale parce que je dis, ah, j'aurais à cœur qu'on bénisse telle personne. Puis, elle dit, OK, ouais. Puis là, elle me dit, ben, on pourrait donner tant, nan, nan, nan. Je dis, ouais. Ben, elle me dit un vraiment plus petit montant. Je dis, moi, le Seigneur m'avait mis à cœur tel montant. Tu sais. Elle dit, ben là, si Dieu te le met à cœur, il faut qu'on obéisse. Fait que. Je suis pas en train de me glorifier aujourd'hui, je m'en vais quelque part, OK? Je m'en vais quelque part. Fait qu'on a donné le montant. Seigneur, on était bien contents de le donner. Et on était heureux. Tu sais, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, là. On était vraiment joyeux. Il y a une joie qui existe. Il y a plein de catégories de joie dans la vie. Il y a une joie qui existe qui est spécifique à quand tu donnes. Tu l'expérimentes un peu à Noël quand tu te donnes des cadeaux. Tu es content de faire plaisir. Hein? Mais quand tu donnes à quelqu'un, il y a une joie dans ton cœur. Surtout quand tu obéis à la voix de Dieu. Et la semaine d'après, à cette époque-là, à ce moment-là, la semaine d'après, j'ai rencontré mon boss dans le temps. Et mon boss me dit, écoute, on va augmenter ton salaire. Puis ils m'ont augmenté mon salaire de 7 fois ce que j'avais donné à la personne. Puis c'est comme si Dieu m'a dit dans mon cœur, regarde là, quand je te parle là, arrête de tatawiner puis donne immédiatement. Parce que je veux te bénir, je veux prendre soin de toi. Puis je veux que tu sois un outil entre mes mains pour bénir d'autres. C'est formidable ça. Dieu bénit la générosité. Dieu prend soin de ses enfants. Je continue ici au Proverbe 3, verset 9. On parle ici des dîmes, des prémices, des premiers fruits, des premiers produits. Verset 9. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Il y a un texte dans la Bible, dans Malachie 3, verset 10, qui dit ceci. « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Et dans ce texte-là, dans Malachie, les versets qui précèdent, Dieu reproche au peuple de garder justement ses dîmes, de garder les premiers fruits, les premiers dons qui allaient pour le temple, pour la maison de Dieu. Et Dieu va leur dire, amenez votre dîme, amenez les prémices, vos premiers fruits, puis vous allez voir si je ne vais pas ouvrir le ciel sur votre vie. Vous allez voir si je ne vais pas vous bénir de façon extraordinaire. Et juste mettre une chose bien claire, vous pouvez venir à l'église ici à chaque semaine et ne rien donner, ne pas donner de dîme qui est 10 % dîme, et ne pas rien donner et on ne va jamais vous juger, vous n'allez jamais manquer d'aucun service. Vous êtes toujours le bienvenu ici, peu importe qui donne. D'ailleurs, je ne sais pas combien chacun d'entre vous vous donnez. C'est les administrateurs à Longueuil qui gèrent tout ça. Mais je veux vous dire aujourd'hui qu'il y a une bénédiction à donner. Je veux vous dire aujourd'hui que tu es gagnant à devenir généreux. Cette église ici, comment elle fonctionne? Elle fonctionne par des dons. Elle fonctionne parce qu'il y a des gens ici qui, à chaque semaine, prennent une partie de leur salaire, 10 % ou plus ou moins, et ils donnent pour l'avancement de l'église, ils donnent pour l'entretien du bâtiment, le salaire du pasteur, les œuvres humanitaires, comme on a vu tantôt à l'extérieur, les projets qu'on veut faire dans l'avenir. Tout ça marche parce qu'il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui sont généreux. Et ce matin, je veux vous remercier. Je veux vous remercier de votre contribution. Merci de participer de façon activement à l'église. La Bible nous dit également de donner, mais de donner avec joie. Hein, on a tous connu quelqu'un qui fait fais pas ça, mon ami, tu perds ta bénédiction quand tu donnes de même. Non, Dieu veut bénir ceux qui donnent avec joie. Le Proverbe 21:15 qui dit « C'est une joie pour le juste de pratiquer l'équité, mais la ruine est réservée à celui qui commet l'injustice. » Il y a une joie quand on donne. Et là, je vais aller voir un verset clé sur le fait de donner dans 2 Corinthiens 9 à partir du verset 6. Ça dit ceci. Écoutez bien les paroles de ce texte. « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières et de reconnaissance vers Dieu. Quelques éléments clés là-dedans. Que chacun donne. Pas juste que Pierre-Jean-Jacques donne, que chacun. Ça nous inclut tous. Comme il l'a décidé dans son cœur, c'est bien sûr un choix qui est personnel. Donc, c'est entre toi et Dieu combien tu donnes. C'est entre toi et Dieu combien tu donnes et à qui tu le donnes. Et que celui qui donne, le donne sans regret ni contrainte. Hein? On n'est pas forcé, on n'est pas contraint, on n'est pas obligé, on le fait de bon cœur. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu, d'ailleurs, qui possède toutes les richesses de l'univers, peut te combler, peut prendre soin de toi, peut prendre soin de tes besoins. Amen! On a vu tantôt les quatre façons de donner à l'Église. Ça va réapparaître à l'écran. Ça apparaît à chaque semaine. Et merci de donner pour ceux qui le font. Ceux qui n'ont pas encore commencé, je vous invite à choisir votre façon et à commencer à participer. Et n'oubliez pas de mentionner Drummondville, OK, quand vous donnez, c'est bien important, parce qu'on a un budget pour notre Église ici, et nos projets futurs de l'Église dépendent de ce qui est donné ici même à l'Église. Donc, c'est vraiment important. Et on peut également vous remettre un numéro de donateur. Donc, ça, c'est toutes des affaires qu'on explique jamais ou rarement, mais que je mentionne ce matin exceptionnellement dans cette matinée sur l'argent. Vous appelez à l'Église Nouvelle-Vie-Longueuil, vous trouvez ça sur Internet, 646-2150, et vous demandez à parler à la personne la plus souriante dans la bâtisse, qui est Joanne Kiry, d'accord, qui est la femme de pasteur Stéphane Kiry. Et vous dites, j'aimerais avoir un numéro de donateur. Et à chaque fois que vous donnez, vous inscrivez ce numéro-là. Et en début d'année, vous allez avoir un reçu pour mettre dans vos impôts comme don de charité, d'accord? Donc ça, c'est une façon concrète d'être partenaire ici même dans l'Église. Et comme vous avez vu, on fait une distribution alimentaire bientôt, le 6 juin. Mais j'espère que vous lisez entre les lignes qu'on ne veut pas seulement faire une fois une distribution. On veut devenir une Église généreuse. Hein? Ce qu'on fait nous-mêmes, ce qu'on vous invite à faire, on veut comme Église être généreux aussi. On veut qu'une portion de ce qui rentre dans nos revenus puisse aller vers la générosité, vers le développement, entre autres, d'un organisme humanitaire ici même à Drummondville qui va être actif et qui va briller dans la société, tu as le droit de dire « Amen ». Combien vous avez à cœur ça? Vous avez à cœur de voir, de participer à une Église qui ne fait pas juste s'occuper d'eux-mêmes, mais qui va vers l'autre, qui va vers ceux qui vivent des moments difficiles. Dieu bénit la générosité. Dieu bénit quand on donne avec joie. Dieu bénit aussi, Dieu nous invite à donner avec discrétion. Hein? Proverbe 25:14, « Des nuages et du vent sans pluie, c'est ce qu'on aurait bien aimé après-midi. Là. Voilà ce qu'est l'homme qui se vante à tort de sa générosité. Ouh, oui, oui. Matthieu 6:1, qui est un classique. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, avez-vous remarqué ici que dans ce texte-là, c'est comme juste normal qu'un chrétien fasse un don à quelqu'un? Avez-vous remarqué ça? Il ne dit pas « il faudrait que tu fasses un don ». Il dit « quand tu fais un don à quelqu'un, comme si ça fait partie de la vie chrétienne d'être généreux puis de donner. Oui, ça fait partie de la vie chrétienne. Tu as le droit de dire « Amen ». Merci pour les 4 personnes du début qui sont revenues. On va y dîner ensemble après. Je fais des blagues. OK. Verset 2. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te rendra lui-même ouvertement. Donc, ça fait partie du christianisme aussi. On donne, mais on donne discrètement. On donne, mais on donne avec joie. Combien vous êtes heureux que vous trouvez ça beau, le don chrétien? Moi, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça formidable. Une des personnes qui m'a appris à donner discrètement, c'est un monsieur qui fréquentait l'Église Nouvelle-Vie il y a longtemps, qui s'appelle Monsieur Denis. Okay, un monsieur formidable. Et quand j'étais adolescent, moi, je participais à tous les voyages missionnaires. Okay? Tout mon argent allait pour partir en mission. J'avais à cœur les missions. Et lui, il le savait. Donc, à chaque fois qu'il me voyait, il marchait dans les corridors. Et puis, il était intendant du bâtiment. Et il me faisait des poignées de main un peu spéciales. Okay? Tu sais, le poignée de main qu'il y a de l'argent dedans, là. Fait qu'il des fois, il me donnait un 20$ de même. Il me dit, ah, c'est pour tes missions, ça. La semaine d'après, on se croisait. Là, je voulais serrer la main. Ben non, je faisais pas ça, je faisais pas ça. Mais il venait me voir, puis il me donnait régulièrement de l'argent comme ça, des 20$, des 5$. Il arrêtait pas de me donner du cash parce qu'il savait que j'allais prendre cet argent-là puis l'investir dans l'émission. Mais il le faisait de façon très discrète. Il y avait juste nous deux qui le savaient. Je ne sais même pas si sa femme, elle le savait. Qui est une femme de Dieu extraordinaire, d'ailleurs, que je salue. Mais il était généreux. Ça m'a touché, ça m'a béni, ça m'a encouragé. Puis il le faisait de façon discrète. Quand on reçoit un don comme ça, là, on sent comment... Des fois, on peut sentir mal un peu, là, parce que ce n'est pas habituel. Mais on se sent aimé, non? On se sent soutenu par la personne, mais par Dieu aussi, qui prend soin de nous, qui prend soin de nos besoins. Donc, on progresse. Troisième chose que nous enseignent les proverbes par rapport à l'argent, c'est d'éviter le piège des dettes. Mais les proverbes, ils prêchent vraiment contre notre société, David. Oui, vraiment à l'encontre de ce qu'on vit comme société. Je vous lis quelques textes. « Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes paroles, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. » puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va le supplier et insister auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. 11, verset 15. Celui qui se porte garant pour autrui se retrouvera en mauvaise posture, mais celui qui déteste les engagements est en sécurité. Verset 22, chapitre 22, verset 7. Le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Hey, c'est fort ça. C'est fort. Moi, quand j'ai compris ce texte-là dans ma vie, ça a eu un impact dans ma vie. Chapitre 22, verset 26. Ne figure pas parmi ceux qui prennent des engagements qui se portent garant pour des dettes. Encore une fois, la société nous dit, achète tout ce que tu peux, endette-toi par-dessus la tête, vas-y, fonce. Pourquoi? Parce que quelqu'un en bout de ligne qui va profiter de notre endettement, à qui on va devoir de l'argent, à qui on va devoir rembourser des intérêts sur des marges, sur des prêts, sur des cartes. Et là, il faut qu'on redonne et on est pris et on n'arrive pas à s'en sortir. Et la Bible, depuis le début, nous enseigne, dégage-toi de toutes tes dettes. Dégage-toi autant que possible des dettes dans ta vie. Je sais que ce n'est pas un message qui est nécessairement populaire, c'est extrêmement pratique d'ailleurs comme message. Et moi, j'ai lu un livre à un moment donné d'un gars qui s'appelait Dave Ramsey. Sa photo va apparaître à l'écran. Un gars qui me fait assez rire parce qu'il a un franc-parler. Il est extrêmement direct. Et j'ai lu son livre qui parle justement de comment renouveler sa vie financière. C'est un chrétien. Et une des choses qu'il dit, c'est « Libère-toi de tes dettes ». Et le truc qu'il lui donne, c'est qu'il dit « Fais la liste de toutes tes dettes ». OK, toutes tes dettes, tu dois 20$ à ton voisin, 2000$ pour ton prêt étudiant ou 15000$ pour ton prêt étudiant, ça c'est plus réaliste. Tu dois tant pour ta voiture qui te reste à payer, tu as des paiements sur ton auto, t'as ci. Fais la liste de toutes tes dettes, okay? Jusqu'à la maison à la fin, c'est une maison, une hypothèque. Il dit, il commence à rembourser de la plus petite à la plus grande. Et lui, il appelle ça l'effet boule de neige. Okay? Tu commences et tu t'attaques à une dette à la fois. Et là, tu commences par la plus petite. OK, 20$ à mon voisin. Et là, tu trouves 20$, tu donnes à ton voisin. Hey, j'ai remboursé une dette. Puis tu t'attaques à l'autre d'après. Puis il dit, fais tout ce que tu peux. Vends des choses s'il faut. Trouve une deuxième job s'il faut. Mais fais que ta vie que ta vie de travail soit mise à te libérer de l'emprise que les gens ou les banques ont sur toi. Et libère-toi de tes dettes une après l'autre. Et je trouvais ça vraiment intéressant comme pensée. C'est pour ça que je vous le partage ce matin. Et Dieu nous appelle à être libres. Libres de nos dettes. Libres de retourner à la méthode de nos grands-mères. C'est quoi la méthode de nos grands-mères? C'est tu accumules de l'argent. Quand tu as de l'argent, tu achètes quelque chose. Des gens vous me regardent comme ça. Oui, c'est, on peut faire ça. On peut comme mettre de l'argent de côté. Puis quand on l'a, oh, on achète quelque chose. Comme ça, on n'a pas de dette. Okay? Ça semble fou aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une sagesse là-dedans. Je pense qu'il y a une sagesse même qui est biblique de se dégager de nos dettes. Parce que quand on est libre de dette ou de plus en plus libre de dette, nous pouvons être de plus en plus libres avec notre argent. Hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui contrôle ce qu'on doit donner tout le temps à quelqu'un, mais on peut être libre pour soit faire un achat ou soit pour bénir quelqu'un dans notre entourage. Donc, il y a une paix qui vient avec le fait de se libérer de nos dettes. Tout le monde est toujours là? J'arrive à la fin, restez avec moi. On achève bientôt ce petit voyage dans les Proverbes. On continue. Quatrième chose, on a vu l'importance de remettre l'argent à sa place, que Dieu bénit la générosité, d'éviter le piège des dettes. Et quatrièmement, la Bible nous enseigne à travailler fort. Si vous lisez les Proverbes, vous allez voir que le gars là, qui écrit les Proverbes, là, il dénonce quelque chose qui s'appelle... comment ça s'appelle donc? La paresse. Aïe, aïe, aïe. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Une des valeurs chrétiennes, c'est d'être travaillant. C'est de travailler fort. On devrait, comme chrétien, travailler fort dans nos emplois. Maintenant, il y a des saisons. Des fois, si tu es en burn-out ou si tu vis un moment qui est plus difficile dans ta santé, il n'y a pas de pression sur toi. Il y a des saisons dans la vie. Mais en général, nous sommes appelés à travailler fort. Verset 6, ça dit ceci. « Va vers la fourmi, paresseux. » Ah, il me traite de paresseux déjà. Tabarouette. « Observe son comportement et deviens sage. » OK, là, je vais devenir sage en regardant une fourmi. Hein, des fois, la Bible, hein, ça vient nous chercher. « Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. » Eh bien, finalement. « En été, elle prépare sa nourriture et pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. » Paresseux, encore une fois. Jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu? Te reposer encore? Juste te croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Hein, c'est un texte qui est quand même fort. En passant, en ce moment, j'ai une petite infestation de fourmis chez nous. Donc, j'aime encore moins ce texte-là. Mais le Seigneur nous appelle à être travaillant. À travailler fort, que ça devienne une fierté pour nous d'être travaillant, pas au détriment de sa famille. Tout est dans l'équilibre. Tu sais, je veux nuancer. Des gens disent oh, ouais, on va être travaillant, ouais, mais peut-être pas 100 heures par semaine. Peut-être que ton couple est plus important que ton travail. Peut-être que tes enfants sont plus importants que ton travail aussi. Donc, la nuance est faite. Ceci étant dit, Dieu nous appelle à travailler fort. 10, verset 4. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit. Mais la main des personnes actives est source de richesse. C'est quand même bon, les proverbes, là. 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Oh, ça fait mal, tout ça. C'est certain que pour améliorer notre situation financière, on veut une meilleure planification, on veut faire des budgets, on veut faire de meilleurs choix. Mais une autre clé, c'est de travailler. De travailler, d'être travaillant. C'est une autre clé. Amen. Et je termine avec mon dernier point. Ce matin, j'ai invité les musiciens à s'approcher. Mon dernier point, c'est obéir au Saint-Esprit. Je l'ai parlé tantôt dans mon illustration. Chapitre 3, verset 26. « Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. » Amen. Dieu, que Dieu me préserve des pièges. « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, puis reviens, c'est demain que je te donnerai. Quand tu as de quoi donner. Et je reviens sur l'idée de tantôt. Quand tu es chrétien, quand Jésus habite dans ton cœur, il veut parler à ton cœur. Il veut te parler de toutes sortes de façons. Des fois, il va te dire, « Ah, dis pas ça, dis pas ce que tu allais dire. » C'est pas très sage, ça peut être blessant. Des fois, il va te dire, comme dans le cas de ce matin qu'on parle, « Va bénir quelqu'un. » Va prendre soin de quelqu'un. Fais un don. Donne un plat, de la nourriture. Parce que vous savez, la générosité, ce n'est pas dans le montant qu'on donne, c'est dans l'obéissance. Hein? C'est dans l'obéissance qu'on est en connexion avec Dieu puis qu'on veut prendre soin des gens qui nous entourent. Et je prie que chacun d'entre nous, qu'on puisse avoir ce cœur sensible, qu'on puisse être reconnu comme Église, mais comme individu, comme des gens généreux ici. Que ça puisse être un de nos traits de caractère. Hein, depuis plusieurs semaines, je prêche et je nous invite à être accueillants les uns envers les autres, à intégrer les uns les autres, à aimer les uns les autres. Mais une autre chose que je nous appelle, c'est à être généreux les uns envers les autres, à voir nos frères, nos sœurs, puis à être disponible pour eux, pour les bénir, à être à l'écoute du Saint-Esprit. Un des moments dans ma vie où j'ai appris à être à l'écoute, je ne me rappelle plus si je l'ai déjà conté cette histoire-là ici, donc je la raconte, si vous l'avez déjà entendue deux fois. Sinon, ben, vous allez l'entendre pour la première fois. J'étais ado et j'étais à l'église Nouvelle Vie il y a très longtemps. C'était même pas dans ce local-là, c'était dans un autre local. Et c'était le vendredi soir et il y avait la jeunesse le soir. Et il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte de l'église. Et c'était un ado, 14-15 ans, je dirais plus 14 ans. Et puis, il était un peu drôle. C'est rare qu'un ado non-chrétien qui ne connaît pas Jésus vienne cogner à la porte de l'église, OK? Je ne me rappelle pas que ça soit déjà arrivé. Fait que là, on va me chercher parce que je suis responsable des ados. Puis, j'ouvre la porte, j'ase avec. Puis là, pendant que j'ase avec, je me rends compte qu'il n'y a pas de souliers. Je dis, est-ce que je peux t'aider? Il dit, ouais, je reviens de l'école, puis je me suis fait taxer. Ils m'ont volé mes souliers que je venais de m'acheter. Puis là, j'ai plus de souliers. Je dis, OK. Pourquoi tu es venu ici? Ben, je sais pas, là. J'ai vu que c'était une église. OK. Là, je regarde ses pieds. Puis là, dans le temps, il faut comprendre quelque chose. Quand j'étais ado, une des choses que j'aimais dans ma vie, c'est de m'acheter des beaux souliers. J'étais un peu bizarre de même. J'allais au centre d'achat, OK, aux promenades Saint-Bruno. Je pouvais passer la journée à magasiner une paire de souliers. Okay? J'allais à tel magasin, je les essayais. Je voulais les plus stylés possibles. Là, j'allais à l'autre place, j'essayais. Puis là, finalement, j'allais prendre ceux de la première place. Puis là, j'avais des beaux souliers, des beaux Nike dans les pieds que j'avais payé full cher avec mon argent. Puis là, le Seigneur, il me met dans mon cœur, dans mon petit cœur d'adolescent, « Donne-y tes souliers. » J'ai dit, « Arrière de moi, Satan. » Non! Oh non, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Oh non! Ah non, c'était Dieu. Dans mon petit cœur d'ado qui commençait à rencontrer Jésus, à le connaître comment il est. Fait que là, je me suis dit, ah, sûrement qu'on n'a pas la même grandeur de pied. Ça sert à rien, même si je veux lui donner. Tu portes de quelle grandeur, toi? Des 10. Oh. Moi aussi, je portais des 10 dans le temps. Je porte encore des 10, là, ou des 9,5. Ça change pas tant que ça, les pieds. Et je le regarde avec un sourire, je dis, hey, « T'es trop-tu beau, mes souliers? »« Ah, ils sont vraiment beaux! » Fait que là, j'ai enlevé mes souliers, puis j'ai dit, « Tiens, je t'ai donne. » Je t'ai donne, puis ça te tente, tu viendras à l'église à soir, il y a une soirée pour les jeunes. Là, il me regardait de même. « Tu me donnes tes souliers? » Je dis, « Ah oui, je t'ai donne, prends-les. » « Ah, merci! Aïe, t'es dommage! » Là, je m'enlève les souliers. C'est l'été, j'enlève les souliers. Je donne les souliers. Il s'en va avec. Puis là, je suis en bas dans l'église. Là. En plus, dans le temps, j'avais sûrement des bas blancs. Dans le temps, c'est ça. C'est revenu à la mode, dans les bas blancs. En tout cas, dans les dernières 15-20 ans, c'était plus à mode. Là, Là, c'est revenu, en tout cas. J'avais des bas blancs, sûrement. Puis là, je m'apprêtais à aller à la soirée jeunesse, là. Pas de running, là, pas de souliers en bas. Fait que là, adieu la discrétion, là, tu sais. Pourquoi t'es en bas? Hein? J'ai donné mes souliers. Mais j'étais joyeux, j'étais content. Puis le Seigneur m'a enseigné une leçon aussi. Ah, en passant, personne ne m'a redonné de souliers. Il n'y a pas une fin d'histoire. J'ai pas reçu des Jordan à 1000$ après, non. Je suis juste reparti chez nous en bas. OK. Et ça finit pas toujours avec un gros don quand tu fais un don. C'est vrai. On donne pas pour recevoir après. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Il nous bénit. On manque de rien quand on est généreux. Cette fois-là, j'ai rien reçu. Sinon que j'ai appris à entendre la voix de Dieu puis à prendre soin de mon prochain avec ce que j'avais. J'avais rien d'autre. J'avais pas de cash. Le Seigneur n'aurait pas pu me dire « Donne-y 2000$. » J'avais pas d'argent. Mais j'avais des beaux souliers. Puis j'ai donné. Puis j'étais heureux de le faire. Amen. En terminant ce matin, je t'invite à te recueillir un instant. Ce matin, on va faire quelque chose ensemble. On va faire le point sur notre cœur, sur notre vie, sur nos finances. Dans ce premier message du livre des Proverbes, inquiétez-vous pas, on ne parlera pas d'argent toutes les fois, là, c'est juste aujourd'hui. Mais c'est important de prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir à notre propre vie, notre propre situation. Tu peux fermer tes yeux un instant, tu peux te recueillir et tu peux commencer déjà à prier dans ton cœur et demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il pense de tes finances? Qu'est-ce qu'il pense de ta gestion des finances? Qu'est-ce qui doit être changé dans ta vie, dans ton attitude? Peut-être des gestes concrets que le Seigneur te demanderait de faire. Hein, ce matin, on a vu comment Dieu veut remettre l'argent à sa place, qu'il veut enlever l'argent comme Dieu dans notre vie, dans notre cœur, dans notre couple. On a vu également que Dieu bénit la générosité, que Dieu veut nous aider à éviter les pièges des dettes, que Dieu nous appelle à travailler fort, mais surtout que nous sommes appelés à être obéissants au Saint-Esprit dans tous les aspects de nos vies et même dans les finances. Même dans les finances. Donc, ce matin, je t'invite à réfléchir. Peut-être que tu vas te dire, moi, j'ai jamais été généreux, c'est pas que j'aime pas le monde, là, mais j'ai jamais vraiment fait de don. Puis, ouais, j'ai à cœur de prendre soin de quelqu'un dans mon entourage. J'ai à cœur de faire un don. J'ai à cœur d'aider, d'aimer en action. D'autres, vous allez dire, moi, la poursuite de l'argent, c'est toute ma vie en ce moment, puis je reconnais ce matin que Dieu veut changer mon cœur. Que oui, c'est correct là, de faire de l'argent, mais que Dieu ne veut pas que je poursuive l'argent comme si c'était ma vie, comme si c'était ce qu'il y avait de plus précieux, que je puisse remettre l'argent à sa place ce matin. D'autres, ce matin, vous êtes ici, et bien franchement, vous vivez une période de difficultés financières importantes. Puis pendant que je prêchais ce matin, tu ne sais pas trop comment t'en sortir. Tu ne sais pas trop comment tu vas faire justement pour rembourser une dette. Tu es mal pris, tu es mal prise, tu as perdu ton emploi peut-être. Tu vis une difficulté. Et l'argent dans ta vie, pour toi, c'est une cause d'angoisse, une cause de difficulté, de stress immense. Et ce matin, oui, il y a des solutions, oui, il y a des conseillers. Et justement, les proverbes nous invitent à aller vers les conseillers, d'avoir des conseils pour s'en sortir. Et je t'invite à faire cela. Mais ce matin, immédiatement, ce que je t'invite à faire, c'est à te confier en Jésus-Christ, qui t'aime, qui veut pourvoir à tes besoins, qui veut prendre soin de toi sur le plan matériel. Dieu veut prendre soin de ton cœur, de la guérison de ton cœur. Dieu veut prendre soin de ton corps. Mais Dieu veut aussi prendre soin, oui, de ton couple, de tes enfants, mais aussi de tes finances. Dieu est préoccupé par ta situation. Dieu t'aime et Dieu veut intervenir. Et la première chose qu'il veut faire ce matin, c'est qu'il veut te donner une paix. Il veut te donner sa paix dans la situation difficile dans laquelle tu es. Il veut te donner la paix dans ton cœur, enlever l'angoisse, enlever le stress. Et par la suite, le Seigneur va peut-être te diriger vers un conseiller, vers des idées peut-être pour rembourser une dette, pour faire plus d'argent, pour peu importe, le Seigneur nous guide. Peut-être qu'il va te dire « fais un don ». Mais peu importe ce que Dieu te met à cœur, je t'invite à obéir. Si tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui te met ça à cœur, si c'est quelque chose de positif, qui bénit quelqu'un, ben vas-y. Au pire, ce n'était pas Dieu, puis tu vas prendre soin de quelqu'un. Donc ce matin, on veut juste terminer en offrant toutes nos vies au Seigneur, incluant nos finances. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble devant Dieu? On va le louer, on va l'adorer, parce que lui seul est digne d'être loué, d'être adoré. Donc ce matin, prie, chante, approche-toi de Dieu. Et peut-être que tu as besoin de te repentir, de dire, Seigneur, je te demande pardon pour tel aspect de ma vie, que je t'ai pas trop honoré. Change-moi, Seigneur. Donne-moi un cœur comme toi. Donne-moi de la joie à donner. Donne-moi, Seigneur, un cœur généreux qui t'honore. Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains vers Jésus et s'approcher du roi des rois ce matin?